Donc, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et je crois que c'est vraiment bon d'être ensemble et comme on le fait depuis ce matin, de glorifier son nom, de le louer, d'exalter son nom, de dire combien son nom est merveilleux. Et moi, c'est vrai que dans mon culte personnel avec le Seigneur, c'est vraiment ce que je préfère, c'est être dans cette relation de fils à père et vraiment de dire combien son nom est merveilleux, de l'élever. Et c'est vrai que le Seigneur m'a mis sur le cœur depuis quelques semaines déjà une vérité qui semble finalement assez banale pour nous qui lui appartenons. C'est que son nom est merveilleux, oui, mais surtout que son nom est le nom au-dessus de tous les noms. Et j'ai vraiment mesuré la puissance de cette déclaration de la parole de Dieu, exalter son nom, déclarer que ce nom est le nom au-dessus de tous les noms. J'ai vraiment expérimenté que c'était une puissance qui sauve, que c'est vraiment une puissance qui libère et que c'est vraiment une puissance qui guérit. Jésus, c'est vrai que c'est un beau nom, Yeshua en hébreu, Jésus en grec, et ça signifie l'éternel et salut, ou Dieu sauve. D'ailleurs, dans la parole, dans Matthieu 1, au verset 21, l'ange qui vient annoncer à Joseph que Marie va enfanter, il dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc Jésus, vraiment Dieu qui sauve. Et ce nom de Jésus, il est revêtu de force et il me porte même depuis que je suis enfant. C'est assez drôle, mais quand je préparais ce message, là, c'est la petite anecdote, j'avais trouvé à la maison une espèce de petite carte, vous voyez, un format carte bleue, et dessus, vous aviez donc cette carte, un recto et un verso. Sur le recto, vous aviez le nom Jésus écrit en très gros et en très rouge, et vous aviez au dos donc un petit texte qui expliquait combien Jésus était notre sauveur, combien son nom était merveilleux, combien on pouvait se confier en lui. Et c'est vrai que j'avais pris ça au pied de la lettre. Je m'étais accaparé la petite carte, je l'avais mis au fond de mon portefeuille. Je devais avoir une dizaine d'années. D'ailleurs, je crois que dans le portefeuille, il y avait ça. Parce qu'à 10 ans, je gagnais pas ma vie. Mais j'avais vraiment saisi, en lisant ce texte, cette puissance. Et c'est vrai que chaque fois que j'avais peur de quelque chose ou que j'étais dans une situation pas très confortable dans la vie, je me souvenais de cette carte qui était au fond de mon portefeuille et je déclarais « Jésus, 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 protège-moi ». J'avais vraiment ça à cœur et je dois avouer que ça avait de l'effet. Je ne connaissais pas Jésus personnellement, comme on peut le connaître aujourd'hui, mais je crois qu'à travers cette petite anecdote, il préparait déjà notre rencontre personnelle qui est arrivée bien des années après. Donc voilà le titre de mon message, c'est Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Et j'ai donc à cœur de partager ce matin cette vérité qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui en fait mention, d'abord dans Éphésiens 1 au chapitre 20, où il nous parle de la force et de la puissance de Dieu. Et il nous dit « Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Donc ça, c'était un premier passage. Et un deuxième passage qui va être un peu le fil rouge de mon message. Romain, si tu peux le diffuser. Merci, merci Romain. C'est dans Philippiens 2. Donc on va méditer les versets 5 à 11 et voir quels enseignements profonds on peut en tirer pour nous fortifier spirituellement et vraiment nous encourager à persévérer dans la foi. Et donc on va le lire ensemble. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce passage des Écritures, moi je le trouve vraiment magnifique. Il est d'ailleurs décrit par certains théologiens comme l'hymne christologique. Un hymne, c'est quelque chose de poétique. Et il décrit en fait cet hymne, comment Jésus s'est abaissé. Ça c'est le verset 6 et le verset 7. Comment il a obéi jusqu'à la mort, au verset 8. Puis comment Dieu l'a élevé, au verset 9 et au verset 11, comment il l'a glorifié. Et on voit donc un mouvement qui est un mouvement d'abord descendant, où Jésus est complètement dépouillé, il renonce absolument à tout, il est crucifié, et puis vous avez ensuite un mouvement ascendant avec son exaltation et son couronnement. Et cet hymne, il est important parce que je trouve que c'est un texte qui donne vraiment des informations précises sur la nature de l'incarnation, en fait. C'est comment Jésus a quitté son statut béni auprès du Père. Enfin, rendez-vous compte, il est l'égal du Père, il est Dieu, il est dans les cieux. Il quitte ce statut béni pour se faire l'égal des hommes, pour se faire l'égal de nous-mêmes. Et Paul, il utilise vraiment cet hymne pour fonder cette exhortation, je pense, comme un exemple de Christ pour nous. On peut peut-être se donner quatre exemples de ce que Jésus peut être un exemple pour nous. D'abord, il a souffert dans l'obéissance. Et là, Paul s'adresse aux Philippiens, et je pense qu'on peut se considérer comme Philippiens peut-être ce matin. Et il les exhorte vraiment à tenir ferme dans la foi. Comme Jésus a pu souffrir dans l'obéissance, il nous exhorte à tenir très ferme dans la foi. Christ s'est humilié, il a pris une condition de serviteur. Il est venu pour servir. De même, si on devait prendre cet exemple, on devrait entre nous être dans l'humilité et se mettre au service aussi peut-être les uns des autres. Et alors que certains sont orgueilleux, certains sont intéressés uniquement par leur personne, préoccupés par leur personne, Christ, lui, il a peut-être toutes les raisons d'être orgueilleux, vu la position qu'il avait auprès du Père, bien non, lui s'est mis dans la position telle qu'il a été profondément humilié, profondément incompris. Rien dans son apparence ne le distinguait d'un simple homme, nous dit la parole. Il était l'humilité même. Et enfin, le quatrième point, c'est que si vraiment nous persévérons, si nous tenons bon dans la foi, comme Dieu a glorifié Christ, on peut espérer nous aussi. Et c'est vraiment notre espérance qu'il nous glorifiera aussi et puis qu'il nous rendra justice. Donc dans les versets 9 et 11 de ce passage, nous lisons donc que Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Alors que voulait dire Paul quand il faisait cette affirmation? Alors dans ce passage, l'apôtre, en fait, il appelle les croyants, comme je disais précédemment, à avoir cette attitude d'humilité. Il donne un exemple à imiter, donc Jésus, et on lit au verset 6 et 9 que Jésus, qui finalement est Dieu, qui a toujours été Dieu, il ne s'est pas accroché à sa position. Quand il dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. On peut faire un parallèle peut-être avec Adam, qui n'avait pas tout à fait cette position. Donc Jésus, lui, il a quitté ce rang élevé dans le ciel pour devenir un simple serviteur humain. Il a mis de côté ses privilèges. Il a mis de côté tout ce qui était glorieux dans sa vie auprès du Père pour se mettre à notre service, pour être dans l'obéissance, au point même de mourir de cette mort horrible sur la croix pour nous les pécheurs. Et à la suite de ce dépouillement, à la suite de cette humiliation, à la suite de cette mort horrible, finalement Dieu l'a élevé. Il l'a élevé à la plus haute place d'honneur. Jésus qui s'est abaissé a été élevé par le Père à sa position glorieuse dans les cieux. Et c'est une conséquence en fait. On le voit quand dans la parole il nous est dit « c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé ». C'est que vraiment c'est le résultat, la conséquence de cet abaissement, c'est la conséquence de cette humilité, qui a amené Jésus à avoir la position qu'il a aujourd'hui auprès du Père. Et ce nom, finalement, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom suprême, bah, c'est ce nom divin, c'est le nom Seigneur. Tout l'en confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est ça le nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom, il reconnaît finalement la seigneurie de Jésus en tant que roi divin de l'univers. Et finalement, cette leçon d'humilité pour le Fils de Dieu de devenir un homme, ça allait bien sûr beaucoup plus loin, on le sait. Jésus a fait un pas au-delà, il était prêt à mourir d'une forme d'exécution bah, qui est la plus honteuse qui soit, sur la croix. Mais après son humiliation et son obéissance, eh bien, Dieu il a élevé Jésus à sa plus juste place de gloire finalement. Et c'est, dans Hébreux 12:2, on peut lire également, l'apôtre Paul confirme ça, c'est qu'en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert sur la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc c'est là des paroles qui sont vraiment puissantes, moi qui m'ont béni, qui doivent nous aider à ne pas nous laisser abattre, à ne pas être découragés. C'est vrai que souvent, on peut être découragé, avouons-le. Nous aussi, on peut avoir des moments de faiblesse, on peut se sentir humilié, on peut se sentir couvert de honte. Mais l'exemple de Jésus doit nous convaincre que persévérer dans la foi et rester dans la paix en lui nous apportera une récompense glorieuse. Ensuite, quand Paul dit « Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Je ne sais pas si Romain, peut-être tu peux revenir sur Philippiens 2. Merci Romain. Donc l'accent là, il est mis sur chaque créature de l'univers qui va reconnaître Jésus comme Seigneur de toute création. Donc lorsqu'il déclare « Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur », au verset 11, il voulait dire que tout être vivant, tant au ciel que sur la terre, va honorer Christ. Les forces célestes dans le ciel, les puissances démoniaques sous la terre, les gens qui sont sur terre et qui rejettent Christ aujourd'hui, nous, ces fidèles dans l'Église, tous se prosterneront devant lui et chaque langue reconnaîtra Jésus pour qui il est, c'est-à-dire le souverain Seigneur de l'univers. Et le prophète Ésaïe l'avait déjà prophétisé quand on lit dans Ésaïe 45, 23 à 25. « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, au verset 24, me dira-t-on. » Il n'y est pas. « En l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. » Donc Jésus a le nom au-dessus de tous les noms parce que Jésus est Seigneur. Et ce nom qui lui est donné par le Père affirme vraiment sa divinité et son autorité suprême. Alors Jésus, je vous apprends rien, il est vraiment le socle de notre vie. Hein. Comme nous respirons tous les jours, comme nous mangeons naturellement, comme voilà, tout ça, ça se fait de manière automatique et de manière réflexe. Moi, j'essaye en tout cas dans ma vie, quand je pense à Jésus, d'être exactement dans la même dynamique, que ce soit réflexe. Penser à lui tous les jours, parce que c'est par lui, c'est pour lui que nous existons. Et vraiment, ça a l'air évident comme ça pour nous, les humains, on traite parfois les évidences comme des banalités, mais le nom de Jésus, sa nature divine, son statut, le fait qu'il soit un nom salvateur, un nom libérateur, un nom qui guérit, bah ça, rien de normal en fait. Et il faut vraiment le vivre de la manière la plus profonde qui soit. Et je voulais vous citer dans l'évangile de Jean, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, « Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Alors oui, nous avons acquis le droit de devenir enfants de Dieu. Et donc si nous sommes enfants de Dieu, ben, nous portons aussi son nom. Nous sommes identifiés comme ses enfants. Nous portons son identité. On est inscrit dans le livret de famille céleste. La parole nous dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est dans Romains 8, au verset 17. Donc nous les croyants, nous sommes assurés, nous sommes vraiment assurés de paraître devant le Père dans le nom du Fils. C'est l'histoire du voile tout à l'heure. Dans cette relation, en fait, nous sommes nés de nouveau, nous avons accepté Christ, nous avons reçu l'esprit d'adoption, et donc maintenant nous sommes libres d'entrer dans la présence du Père au nom de Jésus. Et je voulais vous témoigner vraiment de cette révélation qui m'a incité à partager ce message autour de cette thématique du nom au-dessus de tous les noms. Je l'ai partagé ici il y a déjà quelques semaines lorsque j'ai reçu une guérison miraculeuse alors que je priais justement sur Philippiens 2. Ces fameux versets qui déclarent que Jésus est le nom au-dessus de tous les noms et que en son nom tous les genoux fléchissent, ça a vraiment été une révélation pour moi et j'ai compris à ce moment-là que la puissance qui émane de la parole de Dieu lorsqu'on se l'approprie et lorsqu'on déclare ces paroles, elle casse tous les barrages. Elle est fabuleuse. La parole de Dieu dit aussi que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et vraiment, je remercie le Seigneur ce jour-là de m'avoir fait cette grâce. Lorsque je déclarais que Dieu a le nom au-dessus de tous les noms, enfin que Jésus a le nom au-dessus de tous les noms, et que le nom de Jésus est au-dessus du nom allergie. Le nom de Jésus est au-dessus du nom allergie et que le nom allergie allait fléchir les genoux devant Jésus, devant son nom glorieux. Et alors là, la guérison s'est manifestée. Alléluia. Et le Seigneur me pousse vraiment peut-être à encourager quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui vit peut-être des circonstances, des maladies, des situations qui ne sont pas favorables, qui sont pas sympas, qui vit des situations difficiles. Et cette situation, elle porte aussi un nom, finalement. Quelle que soit la maladie, quel que soit le lien, quel que soit le péché, toute situation dans la vie porte un nom. J'ai envie de déclarer, et je pense même qu'on peut le déclarer ensemble, que le nom de Jésus, il est au-dessus du nom cancer, que le nom de Jésus, il est au-dessus du nom... maladie cardiovasculaire, que le nom de Jésus, il est au-dessus du nom diabète, que le nom de Jésus, il est au-dessus du nom maladie articulaire, que le nom de Jésus, il est au-dessus du nom péché, quel qu'il soit, au-dessus du nom convoitise, au-dessus du nom impureté, au-dessus du nom infidélité. Le nom de Jésus, il est vraiment au-dessus de tous ces noms, et le nom de Jésus, il fléchit. Et ces noms fléchissent au nom de Jésus. Ils fléchissent le genou. Et je crois que c'est vraiment important de le déclarer, parce que, je vous le dis, je l'ai expérimenté, d'autres en ont témoigné ici, ils ont également expérimenté ça, le nom de Jésus et le nom au-dessus de tous les noms. Et on peut s'approcher du trône de la grâce. Oui, Alain a cité le verset tout à l'heure. On peut vraiment, Hébreux 4:16, on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance, c'est-à-dire avec foi, afin d'obtenir compassion ou d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dans ma traduction, c'était être secouru au moment opportun. Donc ce verset, il nous révèle que si nous venons devant le Seigneur avec un cœur humble, avec un cœur repentant, avec foi, nous obtiendrons le secours attendu. C'est certain, parce que Dieu est fidèle. Et parce que Dieu, il est aussi le maître du timing. Il peut aussi bien guérir instantanément, et merci Seigneur pour cette grâce quand ça arrive, mais il peut aussi initier un processus plus long. C'est ce qu'il veut nous dire quand il dit être secouru au moment opportun, c'est que le timing de Dieu est toujours le bon timing, même si ce n'est pas immédiat, il y a un processus qui se met en place, et par la foi, Dieu est fidèle et il va pourvoir. Et le timing de Dieu, c'est toujours le bon timing. En tout cas, nous en avons la certitude parce qu'il fait toujours concourir toutes choses pour notre bien. Puisque je crois que nous l'aimons et je crois qu'on est tous appelés selon son dessein. Et c'est la parole de Dieu qui nous le dit dans Romains 8 au verset 28. Donc cette première partie de mon message, c'était cette étude autour de Philippiens 2, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Et je voulais maintenant, dans une deuxième partie, aller un petit peu en profondeur et voir maintenant comment l'identité de Jésus, comment les différents noms de Jésus peuvent résonner dans nos cœurs. Comment on peut saisir par l'esprit la révélation qui est pour nous dans certaines situations, qui il est pour nous dans certaines situations, et comment il peut se révéler à nous avec un nom particulier qui lui appartient. On va aller dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, au chapitre 3, et à partir du verset 13, où on peut lire, donc là c'est un dialogue entre Moïse et Dieu, et Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. » Donc bien avant d'accepter et de commencer sa mission, Moïse, en fait, il pose une question qui est très intéressante sur l'identité, donc sur le nom de Dieu. Et la réponse de Dieu est assez curieuse, parce qu'en lui répondant, l'Éternel s'identifie d'une manière un peu extraordinaire. Il lui dit, « Tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Bon, dire seulement « Je suis » à quelqu'un, pour s'identifier, ça paraît un peu incomplet. Normalement, le verbe « être », il est toujours suivi d'un qualificatif derrière. Vous me demandez qui je suis, je suis Philippe. Voilà. Je ne suis pas autre chose. C'est ce qui m'identifie. Dieu, lui, c'était pas incomplet quand il a dit ça à Moïse, loin de là. En fait, Dieu était plutôt en train de faire comprendre à Moïse « Il y a beaucoup de choses que tu dois découvrir sur moi, Moïse. Si je dois seulement donner un identifiant, tu risques d'être figé sur cet identifiant-là et tu vas rater plusieurs autres identifiants. » Donc en fait, humainement parlant, quand on donne un identifiant à quelqu'un, il y a une probabilité qu'on continue toujours à l'appeler par ce même nom. Et Dieu ne voulait pas ça. En fait, Dieu voulait se révéler de plusieurs formes à Moïse et à son peuple, face à plein d'autres situations qu'ils auraient à vivre dans leur situation, dans leur vie. Et Dieu voulait que Moïse comprenne qu'à chaque fois qu'ils vont traverser certaines situations, qu'ils vont traverser certaines épreuves, et bien qu'ils aient une nouvelle révélation de lui à travers un nouveau nom. Ainsi, à ce « je suis », ils vont ajouter à chaque fois un nouveau qualificatif. Et Jésus qui est Dieu en chair humaine, qui est venu sur terre, et bien il a repris et il emploie la même expression que Exode 13, 14, le « je suis ». Alors non seulement pour nous dire qu'il est le même Dieu qui a parlé à Moïse dans le désert, mais qu'il est aussi celui qui doit être en fonction des défis qui se présentent devant nous et qui se présentent dans nos vies. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, à cette reprise, Jésus il va se décrire par des éléments qui sont très simples de compréhension sur sa nature, sur qui il est, mais qui sont aussi, qui pour moi cachent une profonde révélation de qui il est vraiment et de comment il veut se révéler à nous. Donc c'est dans cette optique qu'on va regarder les sept, ce qu'on appelle les sept « je suis » de Jésus dans la parole et dans l'évangile de Jean. La première, c'est « je suis le pain de vie ». Ça, on le voit dans Jean 6, au verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc Jésus, en s'appelant le pain de vie, il parle de l'importance qu'avait le pain pour les Hébreux à cette époque, hein, dans leur quotidien. C'était pour eux une nourriture indispensable. Mais le problème avec ce pain, qui est une solution terrestre à la faim, finalement, c'est qu'il procurait une satisfaction assez éphémère, finalement. Et Jésus, lui, il vient changer notre manière de penser. Il nous dit que lui, il est le seul qui procure une satisfaction éternelle. À la fin, alors pas à la fin au ventre qui gargouille, mais à la fin de l'âme, hein, à cette recherche profonde que l'on a. Et il conclut finalement que les solutions terrestres à nos besoins ne sont que pour une courte durée, finalement, mais que quand on recourt à Jésus, lui, il est la solution divine, et grâce à lui, nous n'aurons plus jamais ni faim ni soif. Le deuxième « je suis » dans la parole, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 12, c'est « je suis la lumière du monde ». Jésus donc leur parla de nouveau et dit « je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Donc dans un monde qui est rempli de ténèbres, qui est vraiment sous la domination du diable et de ses acolytes, Jésus il est venu comme la lumière du monde finalement. Et c'est vraiment un privilège pour nous d'avoir cette lumière qui vit en nous et qui nous permet de marcher dans un monde rempli de ténèbres. Et on prie vraiment pour avoir cette lumière de vie et pour jouir de cette vie dont l'objet est vraiment Christ et qui nous rend parfaitement heureux et capable de voir tout comme Dieu les voit. Il y avait un troisième « je suis », et ce troisième « je suis », c'est « je suis la porte des brebis ». Donc là, c'est toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et verset 7. Jésus leur dit encore « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis ». Donc Jésus, il compare le royaume de Dieu à une bergerie. Et cette bergerie, en fait, elle remplit le rôle de la porte. Enfin, lui, il remplit, c'est Jésus qui remplit le rôle de la porte. Et nous savons tous que une porte d'entrée, enfin une porte, c'est le point d'entrée dans un lieu, dans un endroit. Et Jésus, il veut nous faire comprendre qu'il est la seule personne par qui il faut passer pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans la présence du Père. Le salut n'est que dans le nom de Jésus. C'est rappelé dans Actes 14 au verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un quatrième identifiant de Jésus, comme il se décrit, c'est le quatrième, donc je suis le bon berger. C'est dans Jean 10, verset 11, oui, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc le Seigneur se nomme aussi le bon berger, et il se donne ce titre lorsqu'il parle finalement de donner sa vie pour ses brebis, pour nous, pas seulement pour prendre soin d'elles finalement, parce que son amour il est si grand qu'il ne tient pas compte de sa vie. Il ne veut pas que ses brebis périssent. Donc il va aller jusqu'au bout, il va aller jusqu'à la croix. Et il fallait vraiment que sa mort sur la croix intervienne pour que nous ayons cette vie en Dieu, cette vie divine. Et Jésus dit ici qu'au lieu de s'épargner, il donne sa vie pour ses brebis sans défense. On a également un exemple de ça en David, dans le livre de Samuel, lorsqu'il gardait le bétail de son père. J'ai trouvé que il y avait une belle comparaison là. Il a délivré le mouton et il a tué carrément l'ours et le loup qui s'en prenaient à son bétail. Donc en s'appelant le bon berger, Jésus veut nous montrer qu'il nous protège aussi contre les attaques du diable et qu'il s'assure que nous ne manquions de rien. Et le psaume 23, un des psaumes les plus célèbres, nous le dit aussi très clairement. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le cinquième je suis la résurrection et la vie. Donc dans Jean 11 au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc là, on est dans le récit de la résurrection de Lazare, et Jésus annonce à Marthe qu'il est la résurrection et la vie. On est tous pécheurs, c'est notre lot à tous, et nous sommes donc tous sous le pouvoir de la mort. Mais pour en sortir, il faut vraiment cette puissance qui délivre de la mort et qui donne la vie. Et Jésus, il est donc cette résurrection, il est donc cette vie. Et celui qui croit en lui, quoique mort, sera ressuscité. Ça, c'est une vérité absolument suprême. Celui qui vit, qui se trouvera présent dans son corps, ne mourra point. C'est ce qui arrivera lorsque le Seigneur Jésus viendra enlever son Église. Les morts en Christ ressusciteront en premier, et les vivants qui seront restés, elles seront enlevées sans passer par la mort. Ça, c'est super important. Celui qui croit véritablement en Christ, ne meurt jamais spirituellement. En fait, la mort physique n'est finalement qu'un sommeil pour son corps, parce qu'il a la vie éternelle en Christ. Et pour démontrer sa capacité à réaliser ça, quand il dit « je suis la résurrection et la vie », Jésus a ressuscité Lazare, et surtout sa propre résurrection est venue comme une preuve finalement que la mort n'a aucun pouvoir sur lui, et qu'il est la source pour nous aussi de la vie éternelle. Le sixième « je suis », c'est « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça, c'est dans Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit « je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Donc cette déclaration de Jésus, elle vient à la suite d'une question de Thomas, qui était de savoir où se trouvait, quel était le chemin vers lequel allait Jésus. Et Jésus a répondu, il n'a pas répondu qu'il y avait un chemin à montrer en fait, un chemin physique. Il a dit qu'il était lui-même le chemin qui mène au Père. Donc en acceptant finalement Jésus dans nos vies, on s'unit à lui pour être conduit vers le Père, pour être en communion avec le Père. Donc ça, c'est le côté chemin. Le côté vérité, Jésus est la vérité, c'est-à-dire qu'il est la révélation complète de Dieu. Cette vérité qui met finalement tout en lumière. Ça nous affranchit évidemment de la servitude, et ça fait de nous des enfants de Dieu. Et enfin, la vie. Parce qu'il régénère finalement. Il fait renaître celui qui est mort spirituellement. Il est la source de la vie éternelle. Finalement, aucun homme ne peut s'approcher de Dieu en tant que Père s'il n'a pas connu le Fils. Et s'il n'a pas été ressuscité spirituellement par le Fils, par Christ. Et c'est pourquoi Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi » dans ce passage. Et enfin, le dernier « je suis », c'est « je suis le vrai cep ». Je suis le vrai cep, dans Jean 15 au verset 1, « et mon Père est le vigneron ». Dans l'Ancien Testament, Israël était considéré comme le cep, ou la vigne de Dieu, et Dieu en attendait du fruit, en fait. Et lorsque Dieu appelle en fait son peuple hors d'Égypte, qu'il le place en Canaan, dans une terre un peu plus favorable, il attend que le peuple lui rapporte le fruit qu'il attendait. Ce fruit, c'était l'obéissance, c'était la droiture, c'était la justice. Mais malheureusement, cette vigne, elle n'a jamais produit de bons fruits. Elle a produit des raisins sauvages, qui étaient finalement les fruits de la nature mauvaise de l'homme. Et Israël n'a pas réussi finalement à cause de son péché. Mais Jésus, lui, il est venu et il a réussi parce que lui, il est saint et parce que lui, il est juste. Et la venue de Jésus a vraiment changé les choses. À partir de lui, finalement, et si on est vraiment ancré en lui, ancré à ce cep, tous ceux qui demeurent ancrés à lui, et qui demeurent en lui, ils reçoivent les mêmes avantages finalement. C'est-à-dire que comme il a produit du fruit pour le Père, Jésus a produit du fruit pour le Père quand il était sur terre, ben il nous révèle aussi le secret pour que nous, on puisse y arriver aussi, pour que nous aussi, on puisse produire du fruit et arriver à le faire. Et ça consiste vraiment à rester véritablement et pratiquement attaché à lui, attaché à ce cep. La conclusion, c'est que Jésus, finalement, il est vraiment le secret de notre productivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne productive si on n'est pas fermement attaché à Christ, si on n'est pas fermement attaché à son nom. Et je ne sais pas si parfois certains se sentent un peu détachés de Christ, se sentent détachés de lui, de son nom. Moi, j'avoue que parfois ça m'arrive. Et j'aimerais dire vraiment que si nous voulons vivre une vie chrétienne productive, si nous voulons être dans la vie, mais la vraie vie, la vie qui est attachée à Christ, eh bien il faut être vraiment conscient qu'il a plusieurs noms et que ces noms, tous ceux qu'on a cités, les « je suis » que Jésus s'est attribué lui-même, eh bien ils peuvent nous parler et il peut être présent dans toute situation de notre vie. Vraiment dans toute situation de notre vie. Il peut être et il sait être le pain de vie. Il sait être la lumière du monde. Il sait être la porte des brebis. Il sait être le bon berger, la résurrection et la vie. Il sait être le chemin, la vérité et la vie. Et enfin, il sait être et il est le vrai cep auquel nous pouvons être et rester fermement attachés. Donc c'est ce que je disais, nous pouvons vraiment être dans toutes circonstances de notre vie, nous raccrocher à un de ces sept je suis, à un de ces sept noms. Donc tous ces attributs identifient vraiment celui qui vit en nous et dont le nom est au-dessus de tous les noms. Et ce nom, je l'ai vraiment médité et je trouve que ça révèle une vraie vérité. Ce nom, il nous donne de l'assurance. Il nous donne de l'assurance devant nos ennemis, mais il nous donne aussi de l'assurance devant ceux vers qui nous sommes appelés à témoigner et à témoigner de ce nom. À témoigner de ce nom, parce que finalement, ça c'est une vraie conviction, on professe pas une religion, mais on professe un nom. Un nom, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom qui est le chemin, qui est la vérité et la vie, et par lequel nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, parce que ce nom est vraiment le nom au-dessus de tous les noms. Et pour conclure, j'aimerais déclarer, comme l'a déclaré le psalmiste aussi, béni soit son nom pour toujours et que toute la terre soit